Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. On va parler dans un instant de la candidature Hidalgo, des salaires, de Zemmour, mais avant cela, cette annonce attendue aujourd'hui d'Emmanuel Macron, d'un contrôle indépendant de l'IGPN, la police des polices. Ce serait une commission notamment composée de parlementaires, c'est à voir et à suivre, mais est-ce que vous y êtes favorable?
Écoutez, cette proposition-là, on l'a formulée en janvier 2021, bien avant le président de la République. Nous avions une commission d'enquête menée par le groupe des députés socialistes et apparentés qui a rendu ses conclusions le 21 janvier 2021 avec 35 propositions et celle-ci en faisait partie. Donc je suis ravie qu'elle trouve l'écho auprès du président de la République. Je regrette qu'au moment où le rapport est sorti, personne, ni le ministre, ni le Premier ministre, ni le président de la République n'ait souhaité faire de commentaires et surtout n'ait souhaité dire qu'ils adhéraient à cette proposition-là.
Ouais, donc il vient chercher des idées à gauche, c'est peut-être justement
c'est pour... C'est pas chercher parce que des idées à gauche, une commission d'enquête rassemble toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale. Celle-ci, nous la partageons. Effectivement, ouais. Il faut qu'il puisse y avoir, qu'on retrouve une adhésion de certains citoyens pour la police et la gendarmerie, qui effectuent un travail très difficile, il ne faut pas se mentir, c'est un travail très difficile. Et je pense que pour qu'on puisse assainir certains qui auraient les doutes de certains, avoir une commission indépendante, ça me paraît être une bonne idée. Et nous l'avions formulé, c'était une des 35 propositions de janvier dernier.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de politisation des contrôles des policiers, justement?
Non, parce que vous savez, ça existe déjà sur le renseignement. Il y a une commission à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui sont habilités, hein, c'est pas tous les parlementaires. Il y a un secret qui est parfaitement respecté et je pense que ça fonctionne bien.
Voilà. Oui. Bon, et les commissions parlementaires, ça marche plutôt bien. Alors, dans l'affaire Benalla, ça avait bien marché? Vous étiez satisfaite?
Les commissions parlementaires, c'est encore autre chose. Là, je parle du contrôle parlementaire, ce qui est un tout petit peu différent. Les commissions parlementaires, heureusement qu'il y avait le Sénat pour les faire fonctionner de manière... démocratique. Mais il est vrai que l'Assemblée nationale a perdu ce goût, cette capacité à mener un débat apaisé où la majorité accepte de jouer son vrai rôle et pas juste de supplétif du gouvernement.
Oui. Est-ce qu'il faut plus de police dans les quartiers, globalement?
Alors, oui, il manque des policiers sur le terrain. J'avais fait, il y a quelques mois, un petit décompte du nombre de policiers et de gendarmes recrutés sous cette majorité par rapport aux quelques 10 000 qui ont été recrutés sous le précédent quinquennat. Donc on n'est pas encore aux 10 000 sous ce quinquennat actuel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux questions. Il y a à la fois les recrutements, puis il y a les policiers qui sont sur le terrain. Et ça, là-dessus...
Donc vous allez pousser votre candidate, Anne Hidalgo, à émettre des propositions à ce sujet? Parce qu'on n'a pas entendu parler ce week-end.
Bon, enfin, elle a annoncé sa candidature dimanche. Vous voulez déjà qu'elle ait traité tous les sujets. Ouais. Vous savez, la campagne présidentielle, c'est une course de fond. Il y a l'élaboration d'un programme qui se fait aussi en concertation avec les différents partenaires. Parce que dans l'équipe, dans la team Hidalgo, l'état d'esprit, c'est pas je décide tout seul et c'est comme ça que le programme se déroule.
Est-ce qu'elle a décidé toute seule alors sa proposition de doubler le salaire des profs?
Mais, alors je vais vous dire, moi, cette proposition d'avoir une revalorisation des professeurs, je l'ai écrite dans un livre en 2011. Vous pouvez pas dire que ça date d'hier, ça fait exactement 10 ans.
Revalorisation, c'est une chose. Doubler le salaire, c'en est une autre. Vous qui êtes spécialiste des finances.
Oui, eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être en queue de peloton de l'OCDE pour la rémunération des enseignants. La nation doit reconnaître le travail de transmission et de transmission d'un savoir qui est réalisé par les professeurs et les enseignants. Donc, moi, je suis pour la revalorisation. Sur les débuts de carrière, qui est effectivement qui a un doublement, ça me paraît très important.
Bon, début de carrière, mais après pour la suite...
Encore une fois, la candidate, quand on est candidat à l'élection présidentielle, on fixe un cap.
Oui, on fixe un cap, mais...
Mais c'est très important de fixer un cap.
Mais on parle de choses qui sont réalisables quand même. Certains disent c'est de la démagogie, c'est du populisme d'annoncer ça, le doublement du salaire de tous les enseignants. Les policiers vont réclamer la même chose, les personnels soignants peuvent réclamer la même chose.
Ce sont des choses réalisables. Encore une fois, quand on regarde les différentiels qui existent avec nos principaux partenaires de l'OCDE et même au sein de l'Union européenne, on est très en retard. Et je rappelle que les dernières vraies revalorisations, ce sont été celles qui ont été portées par Lionel Jospin en 1989, ce qui date quand même d'il y a un certain temps, vous le reconnaîtrez.
Est-ce que ça devra passer aussi par une réorganisation peut-être aussi du temps de travail chez les enseignants, dans les écoles?
Mais encore une fois, elle trace le cap de dire, voilà, c'est ce cap-là que je veux donner à ma campagne présidentielle et c'est ce cap-là que je veux donner à ma présidence de la République. Elle n'a pas dit qu'elle ferait tout toute seule. Il y a évidemment des négociations avec l'ensemble des partenaires sociaux. Enfin, encore une fois, des décisions de cette ampleur, comme ce qui s'était fait en 89, elles sont discutées avec les partenaires sociaux.
Bon, Jean-Michel Blanquer avait quand même un peu augmenté certaines catégories, justement, d'enseignants.
Oui, il avait juste appliqué ce qui avait été décidé par Najat Vallaud-Belkacem sous le précédent quinquennat.
Bon, dans votre famille, Anne Hidalgo a donc annoncé sa candidature. Pour vous, c'est tranché, pas besoin de primaire. Stéphane Le Foll, par exemple, réclamait une primaire.
Il y a un processus de désignation militante, comme ça s'est toujours passé au Parti Socialiste.
Bon, et alors,
donc c'est les militants votent.
Alors comment c'est organisé? Le grand public a du mal à suivre quand même, parce que
vous lancez des candidatures. Oui. S'il n'y a qu'une seule candidature, on vote pour une seule candidate. S'il y en a plusieurs, eh bien les militants départageront les candidats et les candidates qui se présentent.
Et ça, ça va être tranché quand, comment?
Rapidement.
Rapidement. Donc, voilà. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Quoi,
non, hein. Ça ne l'est pas encore.
Bon. Pour vous, l'élu du Sud-Ouest, est-ce que Anne Hidalgo a une image trop parisienne, quand même, malgré tout?
Mais sincèrement, quand on regarde son parcours, elle a grandi à Lyon, elle vient d'Espagne, elle a fait son tour de France, et puis surtout, c'est la seule candidate, et là, vous aurez du mal à me dire le contraire, c'est la seule candidate qui a une team Hidalgo qui représente tous les territoires. Vous avez des maires de petites villes, des maires de petites communes, des maires de grandes villes, qui sont dans son équipe et qui sont directement opérationnels. Et cette force-là, je crois qu'elle... voilà, on peut quand même reconnaître que par rapport à un président de la République sortant qui a un peu tendance à décider seul, elle est en capacité de rassembler, de porter ce message et surtout de le faire avec des personnes qui sont directement impliquées, très directement impliquées sur le terrain.
Est-ce qu'elle doit quitter assez vite la mairie de Paris?
Non.
Non?
Non. C'est-à-dire demande au président de la République de quitter la présidence de la République? Non.
Oui. Bon, on demande à Éric Zemmour, en revanche, de quitter l'antenne de CNews. Ça, c'est normal, alors qu'il n'est pas candidat.
La différence, c'est que lui, il a un employeur qui peut lui demander ce qu'il souhaite, en tout cas avoir une discussion avec lui. Et Anne Hidalgo a été élue et elle n'a pas d'employeur.
Et qu'est-ce que vous en pensez sur le fond de cette décision du CSA de décompter les temps de parole d'Éric Zemmour alors qu'il n'est pas encore candidat? Certes, il pourra l'être. Et
il a une parole très politique, donc il est quand même assez normal d'être décompté, de faire partie du décomptage.
Alors tous les éditorialistes qui ont des paroles politiques devraient être décomptés?
Oui, sauf que tous les éditorialistes n'ont pas manifesté à un moment donné l'intention de se présenter à la présidence de la République.
Oui, mais manifester l'intention et puis l'être, c'est une...
Vous connaissez la loi. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un petit pas entre les deux.
Oui. Vous pensez que le CSA subit l'influence peut-être aussi du pouvoir politique ou pas ?
Je crois pas. Enfin, j'espère pas, mais je crois pas.
Bon, un mot également aussi quand même des écologistes qui sont engagés dans une primaire, qui est cette fois-ci assez claire. Vous pourriez discuter ensuite avec les écologistes pour cette présidentielle, quel que soit le candidat déclaré.
Ce qui est sûr, c'est que là, il y a une course de fond qui se met en place et qu'il y ait plusieurs candidats au départ, moi je trouve ça très bien parce que chacun avance ses idées, chacun avance ses forces de proposition et chacun avance sa méthode. Je le redis, Anne Hidalgo, c'est la seule qui a une équipe, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de dire voilà comment je peux porter le projet sur la sécurité, le projet sur l'école, le projet économique, un plan de relance qui ressemble à quelque chose. Alors je sais que le gouvernement est en train d'en faire un deuxième. Je vous rappelle qu'ici même, à cette antenne, j'avais critiqué le premier et le ministre de l'économie avait répondu que tout allait bien. Si tout allait bien, je pense qu'il serait pas, il n'aurait pas l'obligation d'en faire un second qui d'ailleurs apparemment n'a pas... plus au président de la République et qui lui a demandé d'en refaire un.
Oui.
Ces questions-là, mais ça suppose d'avoir des équipes qui travaillent. Et Anne Hidalgo, c'est la seule aujourd'hui qui a ses équipes.
Oui, la seule en fait pour le PS, puisque Jean-Luc Mélenchon a ses équipes également.
Le spectre à gauche. Donc qu'il y ait dans cette course de fond plusieurs candidats au départ, moi ça ne me choque absolument pas. Oui. J'espère qu'on aura la capacité de se rassembler d'ici début janvier pour qu'on puisse...
Mais alors derrière
accéder au second tour, parce que c'est bien ça,
quelle candidature? David Belliard, par exemple, l'adjoint écolo d'Anne Hidalgo, a dit qu'elle sera, en temps utile, se ranger derrière les écologistes.
Mais il est bien gentil de parler pour elle, mais il vaut mieux la laisser parler, elle. Oui. Donc pour l'instant, on est au mois de septembre, On a plusieurs candidats qui sont dans la course de départ. On verra comment les choses se dessinent.
Mais il peut y avoir une union, quoi. Hein.
Mais il faut qu'il y ait un rassemblement.
Donc il n'y aura qu'un seul candidat, si je vous écoute, soit écolo, soit PS.
Vous me demandez, moi, ce que je pense et ce que je pense souhaitable pour qu'on puisse accéder au second tour, ce qui est bien l'objectif.
Ouais. Demain, c'est la date butoir pour le personnel soignant qui n'est pas vacciné. Vous êtes favorable à la suspension des soignants qui auront refusé de se faire vacciner?
Moi, j'ai été favorable à la vaccination obligatoire. J'ai voté contre le pass parce que j'estime que mettre des sanctions quand on n'a pas défini des règles, c'est pas souhaitable dans une démocratie. J'étais favorable à la vaccination obligatoire en laissant un laps de temps jusqu'au 1er octobre, ce qui permettait aux caisses primaires d'assurance maladie d'appeler les personnes non vaccinées, puisqu'on le sait avec son numéro de sécurité sociale, qui est vacciné et qui ne l'est pas, de faire de la pédagogie autour du vaccin, qui, même si effectivement il n'empêche pas la transmission de la maladie, empêche les formes graves, ce qui est quand même bien l'objectif. Sur les personnels soignants, il y a une règle un petit peu différente qui a été votée par la majorité. Je pense qu'il y a eu des débats, des discussions. Effectivement, moi, ça me paraît important que le personnel soignant puisse être vacciné, comme d'ailleurs l'ensemble de la population.
Oui, chez vous, dans le Tarn-et-Garonne, quand vous discutez avec la population et que certains sont toujours réticents à se faire vacciner, qu'est-ce que vous leur dites ?
J'essaie de les convaincre, mais je vois que ça ne marche pas forcément.
Oui, ça ne marche pas forcément. Mmh. Ouais. Et le pass sanitaire, il faudra abandonner cette idée ou pas, alors ?
On va voir déjà où on en est de la vaccination. Donc là, on a sur les premières doses, ça a bien augmenté. Il va y avoir la question des secondes doses. Il faut qu'on voit comment l'épidémie évolue. Mais honnêtement, le pass sanitaire, voilà. Je pense que mettre des contraintes avant d'avoir défini une règle plus générale, ça me paraissait pas. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a voté contre.
Oui. Un mot sur Gérald Darmanin. A priori, on se dirige vers un non-lieu dans l'affaire où il est suspecté, en fait, de viol. Il est temps de classer cette affaire, selon vous, ou pas?
Je ne commente jamais les décisions de justice. Donc, je ne vais pas commencer à votre micro.
Bon, merci. Auparavant, beaucoup, notamment au PS, ont dit qu'il fallait que ça aille jusqu'au bout, quoi. Donc au bout, ça peut être un non-lieu.
Moi, je n'ai jamais commenté les décisions de justice, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui.
Merci, Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous étiez ce matin l'invité de Sud Radio.
8h28, on revient dans un instant. Ne bougez pas.